long dans les prédications, mais le thème est tellement intéressant. Et puis la lettre aux Corinthiens nous parle de tellement de choses que on se censure pas et puis on est un petit peu plus long que d'habitude. Donc, aujourd'hui, on va continuer notre étude dans 1 Corinthiens chapitre 14. On avait lu la semaine dernière versets 1 à 12. Et bien maintenant, on va lire versets 1 à 12. On va relire, mais on va aller jusqu'au verset 22. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 22. Voilà ce que Paul dit aux Corinthiens dans cette partie. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte, une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Prions. Seigneur, en effet, nous sommes bien indignes d'annoncer ta parole, Seigneur, mais tu nous as donné cette fonction aussi, Seigneur, et nous ne voulons pas le faire par nous-mêmes, nous voulons que ce soit toi, Seigneur, qui parle, que ce soit ta parole qui parle, que ce soit elle qui nous touche. Seigneur, ouvre nos cœurs, que ces versets nous fassent comprendre tes vérités et nous tiennent éloignés des erreurs de doctrine, Seigneur. Nous t'en prions, parle-nous à présent, nous sommes là pour t'écouter. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Alors, la semaine dernière, on avait bien détaillé le parler en langue. Vous voyez qu'il y a ce passage-là, on parle en profondeur. Chapitre 12, chapitre 14, il détaille vraiment. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des prochains dimanches, Paul est très, très éloquent sur ce thème-là. Il y avait un vrai problème à l'église de Corinthe et la lettre de Paul aux Corinthiens est là pour régler des problèmes. A priori, il y avait... Déjà, on a vu des problèmes de division, de doctrine, d'immoralité sexuelle, de débauche, d'orgueil, de division, etc., etc., etc. Et à cela, ils ajoutaient le désordre dans le parler en langue, qui était a priori une cacophonie. On voit ici que ça déborde dans tous les côtés. Donc la semaine dernière, on avait bien détaillé le parler en langue sur les 12 premiers versets. On avait vu, si vous étiez là, que à chaque fois que la Bible dans le Nouveau Testament parle du parler en langue, il y a 3 fois dans le Nouveau Testament, c'est à chaque fois des marqueurs de temps. La première fois, c'était à la Pentecôte, c'était un signe pour les Juifs. Et les premiers disciples recevaient le don de parler dans la langue que ces Juifs comprenaient. Donc, langue des Juifs. Un signe pour eux. Deuxièmement, c'était lors de la conversion des premiers païens, Corneille. C'est la deuxième fois où le parler en langue était évoqué. C'était dans la maison de Corneille. Et puis là, justement, on avait vu que c'était la conversion de, voilà, dorénavant d'une nouvelle alliance, mise en place d'une nouvelle alliance avec ses païens. Acte 10. Et ensuite, la troisième fois, c'était pour des disciples de Jean-Baptiste, qui n'avaient pas compris qu'il y avait un Saint-Esprit. Donc, c'est la troisième fois où il y a le parler en langue, c'est la conversion complète, on va dire, la compréhension globale de la nouvelle alliance pour les disciples du dernier prophète de l'Ancien Testament, ou du premier prophète du Nouveau Testament, si vous voulez, selon la lecture. C'était acte 19. Donc, 3 passages pour le parler en langue dans le Nouveau Testament, et à chaque fois, un signe pour les Juifs, pour les non-Juifs, et pour ceux qui faisaient le pont, l'alliance entre les deux Testaments. On avait vu, je vous rappelle, le contexte de l'église de Corinthe, une église qui était complètement divisée, je viens juste de le dire. C'était des chrétiens, Paul dit, vous marchez par la chair et non par l'esprit. C'était des chrétiens qui n'étaient pas du tout spirituels. Et on avait vu de façon assez détaillée, on s'était posé la question, est-ce qu'on doit baser nos doctrines sur l'exemple de chrétiens qui étaient très charnels et qui n'étaient vraiment pas un exemple de consécration? Ensuite, on avait vu ce que Christ avait dit sur le parler en langue. Rien. Aucun exemple du Seigneur. Sauf à un moment, effectivement, il dit que voilà, ceux qui viendront à lui parleront des nouvelles langues, c'est vrai, mais aussi ils prophétiseront, c'est vrai, il l'a dit, qu'ils guériront des malades, etc. Il l'a dit, mais il a aussi dit qu'ils pourront saisir des serpents et boire du poison. Et on s'était dit, d'accord, donc à ce moment-là, si le parler en langue était toujours efficace, donc il faudrait aussi prophétiser, certains le font, exorciser, certains le font, mais il faudrait aussi attraper des serpents et boire du poison. Qui le fait ? Voilà, personne. Et le Seigneur n'a rien dit, n'a jamais parlé en langue, aucun enseignement là-dessus, donc on s'était posé la question, doit-on suivre une doctrine sur laquelle le maître n'a jamais enseigné ? Ce n'est pas l'exemple de Jésus. En général, il est l'exemple premier, il donne toujours des consignes. Et là, sur le parler en langue, pas un mot du Seigneur. Donc, conclusion, vous l'avez compris, mes amis, si vous étiez là et si vous n'étiez pas là, vous le comprenez aussi. Est-ce que le parler en langue a toujours sa place dans l'Église ? On comprend que non, c'est un don aboli. Et que Paul avertissait les Corinthiens en leur disant, attention, vous vous éloignez de la simplicité de l'Évangile, vous partez... trop compliqué là, vous perdez la simplicité de l'Évangile. Donc c'était un enseignement pour nous aussi. Alors, ici dans le passage qu'on lit, on voit un parallèle. Paul fait un parallèle entre 2 choses. Parler en langue d'un côté et le don de prophétie de l'autre. Il y a les 2 qui mettent un petit peu en contraste là. On va regarder un petit peu plus la prophétie ce matin. Quand on lit tout ça, on se dit, on est chrétien en 2020, il y a des choses qui peuvent nous sembler un petit peu difficiles, mais il y a quand même beaucoup de doctrines, il y a beaucoup de chrétiens qui se basent sur ces textes-là hein, pour leur vie de foi. Il y a beaucoup d'églises qui sont centralisées autour de ces 2 thèmes, hein, prophétie, parler en langue. Alors, comme 1 Corinthiens 14 le développe, je pense que ça vaut la peine justement qu'on regarde tous ensemble. Quand on est au début de la conversion, qu'on n'a pas sa conviction sur ces points, on peut être un peu troublé, ce qu'on comprend tout à fait. Donc, c'est important pour nous de bien analyser encore une fois ce texte en détail. Première chose, vous le savez, on le dit souvent ici, quand on regarde un texte, avant d'en sortir une doctrine, il faut regarder bien le contexte, tout ce qu'il y a autour. Attention, on peut tirer un verset de quelque chose et en tirer tout un enseignement. Danger, danger. Il faut bien regarder tout ce qu'il y a autour. Dans la Bible, il y a des choses qui ont disparu, qui ne sont plus valables pour aujourd'hui. Je l'avais dit déjà la semaine dernière, mais je veux juste me répéter un petit peu, au risque de lasser certains, mais c'est important. Il y a des choses de la Bible qui n'ont plus lieu d'être appliquées dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a de parties du Deutéronome, beaucoup de parties où c'est la construction du tabernacle. Les mesures, les vêtements des prêtres et tout. J'ai mis une veste, une chemise pour vous aujourd'hui, mes amis, mais je n'ai pas la grande tenue du grand prêtre, etc. Tout ça, est-ce qu'il y a besoin d'un tabernacle avec tout ça aujourd'hui ? Non, c'est plus la peine. Christ est mort. Pour nous, c'est suffisant. Il est ressuscité. Voilà. On n'a plus besoin de ce tabernacle avec toute cette fonction de prêtre, avec les beaux habits, etc. On a vu jeudi dernier dans l'étude biblique que Dieu a donné à Abraham, en signe de son alliance avec lui, la circoncision pour lui et sa descendance. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui encore de se faire circoncire ? Non. On est descendant d'Abraham par la foi et pas par la circoncision. Donc, plus besoin. Toutes les parties de la circoncision sont erronées. C'est caduque pour nous aujourd'hui. Il n'y a plus besoin. Voilà. C'est des parties de la Bible qui ne sont plus pour nous aujourd'hui. Dernier exemple, dans l'Ancien Testament toujours, le grand prêtre devait, une fois par an, entrer dans le Saint des Saints pour expier les péchés du peuple. Est-ce que c'est encore nécessaire pour nous aujourd'hui ? Il y a beaucoup d'enseignements là-dessus dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on a encore besoin de faire ça ? Non. Jésus-Christ est mort pour tous les péchés du monde, une fois pour toutes, et le salut est offert pour tous ceux qui reçoivent ce salut pour eux, qui acceptent ce sacrifice pour eux. Est-ce qu'il y a besoin de faire un sacrifice une fois par an, une expiation, etc. ? C'est plus la peine, c'est caduque, voilà. Donc, vous avez bien compris qu'il y a des passages de la Bible qui sont terminés. Il n'y a plus besoin de l'appliquer aujourd'hui. Alors, le contexte de l'église de Corinthe, pour bien comprendre, parce qu'ici on a la prophétie du parler en langue, etc. On va regarder un petit peu l'environnement de l'église du 1er siècle et de l'église de Corinthe en particulier. Regardons avec l'église de Corinthe. On avait vu la semaine dernière, que le signe des langues, c'était avant tout pour les Juifs. C'était avant tout pour eux. C'est le cas à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit tombe sur les premiers disciples. C'est des Juifs autour d'eux. Et c'est eux qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces merveilles de Dieu qui sont dites dans nos langues à nous, mais par des étrangers ? C'est un signe pour eux. Pareil chez Corneille, c'était la conversion des païens, mais regardez, Actes 10, versets 44 à 46. Est-ce qu'il n'y a que des païens dans la maison ? Alors bien sûr, il y a Pierre, hein, qui était juif, et qui au début, il ne voulait pas aller chez Corneille, il dit, mais Seigneur, je vais me souiller d'aller chez un non-juif. Et le Seigneur lui avait dit, non, tu y vas. Est-ce que c'est à toi de dire ce qui est impur ? Alors Pierre va y aller, il va prêcher l'évangile, Corneille et sa famille vont se convertir. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Voilà, deuxième notion du parler en langue dans la Bible. Et regardez le verset précédent. Qui est avec Pierre et qui est étonné ? Les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. C'est des juifs, là. Donc c'est encore les juifs qui reçoivent un autre signe pour dire « Ah, maintenant il y a une nouvelle alliance. Dieu se choisit aussi. Parmi les païens se fait un peuple beaucoup plus nombreux. Ça va au-delà d'Israël à présent. Dieu est aussi pour les païens dorénavant. » Donc c'était un signe pour les juifs. Et Dieu ne l'avait pas caché, hein, il leur avait dit. Hein, Dieu, vous savez, quand il fait les choses de façon claire, simple, il l'avait dit à son peuple. D'ailleurs, c'est ce qu'on vient de lire. Hein. Paul le mentionne dans 1 Corinthiens 14, au verset 21. Regardez. Il leur rappelle la prophétie qui est dans Ésaïe 28. Il la cite. Hein. Il est écrit dans la loi. Il leur dit, voilà pourquoi il y a dû parler en langue. Il leur dit, c'est écrit dans la loi. Voilà ce qui est écrit. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront même pas ainsi, dit le Seigneur. Donc le Seigneur, plusieurs siècles à l'avance, avait bien dit à Israël, avait averti en disant, il y aura des personnes d'une autre langue, et je vais leur parler, voilà. Et c'est même eux, voilà, c'est par des peuples, des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Dorénavant, c'est eux qui vont vous parler à vous, Israël. Et on est en train de le voir là avec Corneille, avec la Pentecôte, etc. C'est eux maintenant qui vont vous parler dans une langue que vous ne comprenez même pas. Ce sont des étrangers pour vous. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait vu également Ésaïe 66 qui évoquait un peu ce passage-là. Il disait justement, parmi les peuples qui devaient annoncer à Israël ce phénomène, il y avait la Grèce et le Nouveau Testament était écrit en grec. C'était la langue qui a propagé l'évangile dans le bassin méditerranéen. Alors pourquoi, dans cette église de Corinthe, il y avait autant de parler en langue ? Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça ? Eh oui, c'est ce qu'on va voir à présent. Regardez le contexte de cette église, comment elle a été bâtie. C'est quoi cette église de Corinthe ? Qui la compose, en fait ? Regardez dans Actes 18, versets 1 à 8. on va voir la fondation de l'Église. Paul était à Athènes, ça ne se passe pas comme il aurait voulu. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Voilà, ça va être la fondation de l'Église. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Il fabriquait des tentes. Donc, Priscille et Aquilas, ce sont des juifs. Voilà. Donc, premièrement, il arrive à Corinthe et il se lie avec un couple juif. Ensuite, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des juifs et des grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, vous voyez, on a vu au tout début de l'épître aux Corinthiens que les Corinthiens se battaient, disaient « Moi, je suis de Paul, de Silas, etc. » On voit que Pierre, il était là. Voilà, c'est à ce moment-là que Pierre est arrivé pour prêcher aussi. Quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition, se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » En sortant de là, il entra chez un homme nommé Justus, un homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue, habitait juste à côté. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Les premiers qui composent l'Église, c'est chef de la synagogue, et avec sa famille, donc premièrement dans l'Église, qu'est-ce qu'on trouve ? Priscille et Aquilas, qui sont avec Paul, et puis ensuite, les premiers convertis sont des Juifs. Donc c'est une Église juive, enfin très judaïsante, on va dire, de culture juive, du moins, voilà, il y avait des nouveaux convertis. Et il y en avait beaucoup à Corinthe, il y avait beaucoup de Juifs. Donc, à son arrivée, il s'allie avec un couple de Juifs. Ensuite, il fonde l'Église avec des Juifs, notamment Crispus, là. Et soyez pas surpris, cette Église était remplie de beaucoup de Juifs, parce qu'on en a confirmation un tout petit peu après, dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. C'est un verset qu'on avait eu l'occasion de voir il y a quelques semaines. Regardez comment, quand Paul va prendre l'exemple des Juifs de l'Ancienne Alliance en disant « Mes frères, regardez ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance », regardez comment il va leur expliquer la terminologie qu'il a utilisée pour dire, voilà, les Juifs. « Frères et sœurs, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été dans la nuée. » Alors, selon la traduction, on était en 79, 21 traduit « nos ancêtres ». Voilà. « Je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres, merci, ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés à travers la mer. Nos pères, nos ancêtres. » Il ne dit pas les Juifs autrefois, le peuple d'Israël, il dit bien nos ancêtres à nous. Quand vous dites mon ancêtre, vous parlez de votre arrière-grand-père, c'est bien, ce n'est pas l'ancêtre du voisin, hein, c'est le vôtre. Hein. Il dit bien nos ancêtres, nos pères. Donc il parle à des gens qui sont vraiment d'origine juive, et là on est à l'église de Corinthe. Donc cette église de Corinthe était composée énormément de Juifs. On ne doit pas donc être surpris si le parler en langue était très présent. Pourquoi ? Parce que le parler en langue, c'était avant tout un signe pour les Juifs. Je vous l'ai dit tout à l'heure. À la Pentecôte, c'était premièrement pour les Juifs. La conversion des païens, c'est des Juifs qui sont là et qui sont encore surpris des merveilles de Dieu. Le signe de langue, c'est avant tout pour eux. C'était un témoignage pour Israël que dorénavant, la nouvelle alliance allait toucher tous les peuples. Donc, soyons pas étonnés si cette Église parlait beaucoup en langue, parce qu'il fallait les convaincre, eux avant tout dans leur cœur, que bien voilà, cette nouvelle alliance se mettait en place. Alors on voit le contexte et on comprend maintenant pourquoi ça justifie pleinement que ce parler en langue soit très répandu parmi eux. C'est l'Église du Nouveau Testament où il y a le plus de ces manifestations. Dans les autres églises, on n'entend quasiment pas parler. C'est vraiment à Corinthe, oui, parce que c'est une église vraiment juive pour le coup. Dans une ville qui était entourée de beaucoup de juifs et juste à côté, il y avait une synagogue. Donc on comprend qu'à l'époque, il fallait vraiment un signe fort. Samuel, si tu veux bien projeter le PowerPoint que j'avais... On avait regardé ça il y a un petit peu plus d'un mois, un mois et demi. On avait vu comment... l'annonce de la parole de Dieu au temps de Paul. Comment la parole était enseignée et apportée dans les églises à cette époque. On avait vu... Voilà, si tu veux mettre en diapo, voilà. Selon 1 Corinthiens 12, 28, 30. Comment ça se passait à l'époque dans les églises? Tout d'abord, on avait vu, d'après 1 Corinthiens 12, 28, 30, que la parole de Dieu avait été transmise par les apôtres. C'est ceux qui avaient connu Jésus-Christ, qui avaient rendu témoignage aux autres. Ça, c'était les paroles du Seigneur. C'est ce qu'ils avaient dans les églises, et Paul souvent reprend les paroles du Seigneur dans ses lettres. Et puis, il y avait également la révélation par les prophètes. Les prophètes également apportait des... Comme il n'y avait pas la Bible de rédiger, il fallait aussi que la parole de Dieu soit annoncée. Donc, il y avait des révélations qui étaient faites par les prophètes. Et ensuite, tout était expliqué par les enseignants qui étaient Paul, Silas, etc. Si tu veux bien regarder le verset 7 suivant, merci. L'annonce de la parole de Dieu aujourd'hui, c'est il y a eu la transmission par les apôtres, révélation par les prophètes. Tout a été consigné dans la Bible. Et à présent, bah, c'est ce qu'on fait ce matin, c'est de l'expliquer entre nous. Donc, voilà, la transmission de la Bible. Slide suivante. Voilà aujourd'hui comment se compose l'Église. Là, vous regarderez Éphésiens 2, 19 à 22. Le fondement de l'Église, que dit Éphésiens, c'est les apôtres et les prophètes. C'est ce qu'on a vu. Jésus-Christ est la pierre angulaire de tout l'édifice. Donc, ça repose sur la parole de Dieu qui a été transmise de cette façon-là. Ce n'est pas les apôtres et les prophètes qui font la doctrine, c'est les paroles de Dieu qu'ils ont transmises. Ça a fondé l'Église par-dessus, nous on est là, et Christ est la pierre angulaire. Si on retire Christ, tout s'effondre. Voilà. Il ne resterait plus rien. Et nous, notre rôle en tant qu'Église, c'est de garder l'enseignement, la communion fraternelle, la Sainte Cène et la prière. C'était dans Acte 2. Voilà. Donc aujourd'hui, l'Église est bien en place, les amis. On en est là, on en est sur la troisième slide. C'est pour ça que vous vous rappelez, quand on avait parlé la semaine dernière des pères de l'Église au IVe siècle, ils ne comprenaient pas du tout ces passages-là. Ils disaient « Tout ça, c'est très obscur pour nous, parce que c'est des choses, parler en langue et tout ça, c'est complètement aboli aujourd'hui. » Au IVe siècle, ils disaient « On ne comprend pas ces passages de Paul, c'était des anciennes pratiques, elles ne sont plus pour nous aujourd'hui. Voilà. » Donc aujourd'hui, pour nous, bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est dans une Église qui est bien établie, donc voilà où on en est par rapport à la parole de Dieu. Au parler en langue, pardon. Ça, c'est le contexte de l'Église de Corinthe. Maintenant, le contexte plus large de l'Église au 1er siècle. Quand Paul écrit aux Corinthiens, vous savez quelle époque c'est, là, à peu près? À quelle époque on est? On est grosso modo en 55 après Jésus-Christ. Donc, Jésus a été crucifié il y a à peu près 20-25 ans. Voilà, c'est quand même relativement récent. L'Église est en train de se former. Les chrétiens, donc, ont peu de doctrine juste à présent. Les Corinthiens, ils ont... la lettre aux Corinthiens, hein, c'est ce qu'on avait redit. Et puis c'est à peu près tout. Ils ont les textes de l'Ancien Testament, mais pour ce qui est la partie de la Nouvelle Alliance, la nouvelle révélation, ben, ils n'ont pas grand-chose. Quoi. Ils n'ont pas beaucoup de doctrine, à part des enseignants qui passent pour les enseigner un peu. Donc à Corinthe, il n'y avait pas de pasteur à plein temps, comme nous. Il n'y avait pas non plus de Bible. Ça, c'était plus embêtant. Nous, on l'a. Donc Pierre, Paul, Apollos vont se relayer, ils vont prêcher, etc. etc. Mais quand ils ne sont pas là, l'Église, elle était livrée à elle-même. Et c'est le contexte de la lettre, là. Imaginez la cacophonie avec ce type d'assemblée. Donc, on peut comprendre qu'il était nécessaire qu'il y ait des prophètes parmi eux pour qu'ils aient quand même les paroles de Dieu, parce que sinon, sur quoi ils auraient été enseignés? Sur rien du tout, quoi. Ils n'avaient rien d'autre. Alors ça, c'était le contexte de leur Église, mais aujourd'hui, nous, c'est différent. L'Église est bien établie. Les premiers disciples, ils ont bien été évangélisés jusqu'au-delà de Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dorénavant, aujourd'hui, l'Église est voilà, bien en place. La révélation complète de Dieu a été recueillie, rédigée dans la Bible. Chacun, à peu près, l'a dans sa langue. À peu près, il reste encore pas mal de traductions, mais grande partie de l'humanité a une Bible accessible dans sa langue. Donc ça, c'est fait aussi. Elle est dorénavant accessible à tous les peuples en dehors d'Israël. Et puis, à présent, voilà, toute cette parole, toute la révélation de Dieu est suffisante à présent pour nous faire connaître la volonté de Dieu et son plan du salut à travers la mort de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose pour comprendre le salut, à part la Bible? Non. Et le Seigneur dit même qu'il soit maudit celui qui ajoutera autre chose, quoi. C'est suffisant, les amis. Il n'y a pas besoin d'autre chose. L'Église est en place. La Bible est là. Le plan de Dieu, pour l'instant, est établi selon sa volonté. Donc, dans ce contexte, est-ce qu'on a encore besoin de parler en langue? Est-ce qu'on a encore besoin d'un don de prophétie? Ben vous le comprenez, il n'y a rien qui pourrait le justifier aujourd'hui. Ils ne sont plus nécessaires. Qu'est-ce qui reste essentiel aujourd'hui? L'annonce de la parole de Dieu, celle qu'on a dans la Bible. L'annonce et l'enseignement de la parole, ça c'est essentiel pour continuer à faire ce que Jésus a dit, c'est-à-dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et ça va passer par l'annonce de la parole de Dieu. Alors quand on voit toute la partie de la prophétie que Paul relate dans 1 Corinthiens 14, il faut le prendre sous ce prisme-là, sous cet angle-là. Notion d'enseignement de la parole de Dieu. Pas forcément des prophéties qui vont tomber là et quelqu'un va se lever en disant « Dieu m'a dit ». Non. Regardez, c'est Paul qui le dit lui-même dans 1 Corinthiens 14, versets 3 à 4, ce qu'on a lu tout à l'heure. Quand il parle de prophétie, il dit quoi? Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Vas-y, on en reste juste sur ce verset-là. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous parle, nous édifie, nous exhorte et nous console ? C'est pas le pasteur, hein, c'est pas le prédicateur. Hein. C'est la parole de Dieu. Hein. Quand on prêche la parole de Dieu, hein, on ne prêche rien d'autre. Qu'est-ce qui nous parle, nous édifie, nous exhorte et nous console ? Est-ce que c'est une prophétie que vous allez avoir, Dieu va vous dire quelque chose ? Non ? C'est ça ? Donc quand Paul dit prophétie, c'est le contexte de l'époque parce qu'il n'y avait pas la Bible encore et il n'y avait pas d'enseignant, mais il faut bien le regarder sous cet angle-là. Sinon, on sort le texte du contexte et on fait fausse route, on va en sortir une fausse doctrine. D'ailleurs, Paul est très clair là-dessus, hein. Il fait un parallèle, il dit « parlez en langue d'un côté, donc prophétie de l'autre ». Quel est le plus important ? Quel est celui dont vous avez le plus besoin ? Vous avez compris quand on a lu tout à l'heure ? Ben, vous avez tout, j'imagine que vous avez saisi. C'était le premier verset, 1 Corinthiens 14, verset 1, on avait commencé avec cela. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie, donc sous-entendu d'enseignement de la parole de Dieu. Hein. Recherchez avant tout cela. Avant toute manifestation spectaculaire de tout ce que vous voulez, le plus important, c'est ça. Regardez verset 6. C'est la parole de Dieu qui passe en premier. Maintenant, frères de qualité, vous serez, si je venais à vous en parlant en langue. Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Donc là, il dit quoi ? Il dit le plus important, c'est la révélation, la connaissance, la prophétie, la doctrine. La révélation, tout est lié en fait. La révélation, connaissance, prophétie et doctrine. La prophétie, c'est une révélation. La connaissance vient par la doctrine. Mais tout ça, c'est la parole de Dieu. Hein. La prophétie, c'est une révélation de la parole de Dieu. Ils en avaient besoin dans leur contexte. Et nous, aujourd'hui, on a la connaissance par la doctrine. Mais la prophétie, elle ne donne rien d'autre que de la doctrine, vu que c'était la parole de Dieu. Hein. Donc, Paul dit, à quoi ça sert si je viens avec vous chez vous en parlant en langue ? À quoi je vais vous être utile ? Vous n'allez même pas me comprendre. Vous n'allez rien comprendre. En quoi vous allez être édifié ? Ce dont vous avez besoin, vous, c'est révélation, connaissance, prophétie et doctrine. Voilà le plus important. D'ailleurs, vous savez pour Paul combien... La proportion, combien de fois ça vaut, c'est plus important l'enseignement plutôt que parler en langue ? Le rapport, c'est de 1 à 2000. Pour lui, c'est 2000 fois plus important d'enseigner que de parler en langue. Regardez, c'est dans le verset 19, une formule de mathématiques. Dans l'Église, dit Paul aux Corinthiens, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. 2000 fois plus important pour Paul qu'on prêche un peu la parole plutôt qu'on parle beaucoup en langue. Vous avez vu le rapport, il est important quand même. Hein. Donc, si vous êtes troublé par la doctrine du parler en langue, etc., où effectivement, certains disent qu'il faut parler en langue, c'est un signe que vous avez le Saint-Esprit, que vous êtes chrétien, etc. C'est pas ce que dit Paul. Hein. Paul, dans tous ces passages-là, il ne faut pas les sortir du contexte, il ne faut pas sortir un petit verset parce que ça sert à notre doctrine. C'est de bien regarder le contexte et il dit, il vaut mieux dire 5 paroles avec son intelligence, c'est-à-dire avec son raisonnement et qu'il soit comprise par les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. À quoi ça va vous servir si vous ne comprenez rien du tout ? Vous n'allez pas être édifié. Hein. Vous allez sortir de là, vous allez être... Vous n'en saurez pas plus. Hein. Alors, pourquoi l'annonce de la parole de Dieu est-elle la plus importante ? Versets 2 et 3. On va revenir dessus. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères, donc on ne comprend pas hein, ce qu'il dit. Lui non plus, d'ailleurs. Hein, la personne qui parle en langue, a priori, ne comprend pas, vu que ce n'est pas avec son intelligence non plus. Verset suivant. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, on l'a dit, les édifie, les exhorte et les console. Et oui, c'est la parole de Dieu qui va faire tout ce travail-là. La différence entre le parler en langue et la prophétie, ce que nous explique Paul, c'est que le parler en langue, il n'y a pas la notion d'intelligence, on ne comprend pas ce que la personne dit. En revanche, la prophétie, c'est dans la langue que les gens utilisent et qu'ils peuvent comprendre. Donc c'est ça la différence majeure, c'est que le parler en langue, on ne comprenait pas, on ne comprend pas ce que c'est. La prophétie, c'est dans une langue qui est compréhensible, c'est la langue qu'utilise tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est le plus important, parce que c'est ça qui va nous édifier. Alors j'aime beaucoup hein, quand on... Notre Église, elle a la bénédiction d'être tellement diverse dans ses origines culturelles, etc. Ici, on parle à peu près beaucoup de langues. Je ne vais pas dire toutes les langues, je ne vais pas être exagéré non plus. On parle beaucoup de langues. Mais ça va servir à quoi si le dimanche matin, le prédicateur va prêcher en portugais, en espagnol, ou en anglais, ou en... Alors, j'ai noté, c'est le... En malgache, peut-être aussi, d'ailleurs, en japonais, il y en a qui parlent japonais chez nous. En malinké, c'est la Guinée, notre frère Bernard. Si, pour faire plaisir à Bernard, on va prêcher en malinké, ouais, il va être content, peut-être. Mais alors, les autres, ils vont dire, j'ai rien compris, hein. Le pasteur, laisse tomber. Quoi. Le prédicateur, je ne vais plus à l'église parce qu'un jour, c'est en japonais, le lendemain, c'est en espagnol. C'est sympa, hein, ils font plaisir à quelques-uns, mais nous, on ne comprend rien du tout. Quoi. Ça va vous servir à quelque chose, les amis, si on fait ça? Ben non, rien du tout. Hein. On a besoin d'entendre la parole de Dieu dans notre langue si on veut être édifié, exhorté, consolé. Sinon, on va être comme des instruments de musique, vous savez, c'est ce que dit Paul, hein, qui font du bruit comme ça, mais en fait, ce n'est pas du tout une mélodie, c'est une cacophonie, quoi. On ne comprend rien du tout. C'est désordonné. Alors, c'est vrai que Paul parlait en langue. Hein, il le dit, verset 18. Regardez. Paul ne se cache pas. Il parlait en langue, Paul. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul, il dit, il remet les choses aussi. Il dit, oh là là, Corinthe, alors Corinthiens, vous êtes bien sympas. Mais alors, chez vous, c'est le désordre. Chez vous, c'est tout le monde veut parler en langue, tout le monde prend la... Vous allez le voir dans les prochaines semaines, on va aller un petit peu plus loin dans 1 Corinthiens 14, et vous allez voir qu'en fait, le grand reproche, c'est pas qu'ils parlaient en langue, parce que c'était biblique à l'époque, mais c'est qu'ils parlaient n'importe comment, et surtout, tout le monde voulait dire, moi, je suis... C'est moi qui parle le mieux, quoi. Paul dit, ben moi, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Et donc, vous êtes gentils, mais je suis quand même d'un autre niveau, je suis encore un peu au-dessus de vous, là, parce que moi, j'ai la connaissance. Puis il avait vraiment le Saint-Esprit d'une façon tellement forte, Paul. Il dit, moi, je parle en langue plus que vous tous. Donc, Paul parlait en langue. Hein. Est-ce que c'est pour autant que c'est des langues inconnues? J'aimerais vous demander, peut-être certains d'entre vous pensent encore que le parler en langue est valable, trouver un seul texte de l'Écriture qui justifie que c'était des langues inconnues. Trouvez-moi le verset, on en parle après. Mais vous verrez que vous ne trouverez rien du tout. Voilà, absolument aucun. Il n'y a aucun texte qui montre que c'est des paroles que les gens ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre parce que c'était une langue qui ne parlait pas, mais ce n'est pas une langue qui n'était pas utilisée par d'autres peuples. Sinon, ça n'avait aucun sens, parce que c'était un signe pour les non-croyants. Et pour les juifs, il fallait que les gens comprennent dans leur langue les nouvelles révélations de Dieu. Paul, il parlait en langue, c'est vrai. Mais Paul, il avait beaucoup voyagé dans le bassin méditerranéen. Paul, il parlait quoi? L'hébreu, c'était sa langue maternelle. L'araméen, c'était la langue utilisée même par Jésus, hein. Le grec, absolument. Le latin, probablement, il a été à Rome, c'était la langue de l'Empire à ce moment-là. Il parlait au moins 4 langues. Paul, il peut dire, je parle en langue plus que vous, hein. Moi je parle hébreu, vous parlez hébreu? Ouais, il y a des juifs parmi vous. Vous parlez le latin? Les Corinthiens? Non, vous parlez grec, vous. Voilà. L'araméen? Pas sûr. Voilà. Donc lui dit, moi je parle en langue plus que vous, hein. Ouais, Paul, il était polyglotte, hein. Pas de souci, hein. Et peut-être que même par moment, Dieu lui donnait de parler en une autre langue, hein, mais terrestre. D'ailleurs, regardez-le, Paul, il ne s'en cache pas. Verset 10, qu'est-ce qu'il dit, Paul? Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en a aucune qui soit sans signification. Il le dit bien, Paul. Hein. Il dit bien, attention, quand vous parlez en langue, hein, tout ce que vous utilisez, c'est des langues compréhensibles. Hein. Vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi, là, c'est pas du charabia. Hein. Donc, bien qu'il soit polyglotte et qu'il parle tant de langues, Paul insiste sur un fait avec les Corinthiens. Premièrement, la parole de Dieu, c'est primordial avant de parler en langue. C'est ça qui doit primer dans vos communautés. Et deuxièmement, il faut que vous l'annonciez de façon claire, exacte, intelligible, compréhensible. Et ça, ça passe par l'intelligence. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Et c'est ce qu'il dit ensuite, verset 9. Si vous parlez... Et en langue, et vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Vous parlerez en l'air. Voilà, si vous faites n'importe quoi, du charabia, les amis, c'est comme si vous parlez en l'air. Ça ne sert à rien. Voilà, vous perdez votre temps. Alors, j'aimerais finir par un aspect un petit peu pratique. Ouais, j'ai un petit peu de temps. Je vais voir si j'avais un point, je vais voir si je vais le développer avec vous. Ouais, on a un petit peu de temps là ce matin, c'est très bien. Regardez le verset 20, on va juste ouvrir une petite parenthèse. Regardez pourquoi c'est important de ne pas sortir un texte du contexte. Évidemment, pour préparer tous ces messages, j'ai été voir un petit peu tout ce qui se dit sur le parler en langue. J'ai été voir aussi des textes de ceux qui parlent en langue, évidemment, pour voir comment ils justifient leur pratique, évidemment. C'est là où c'est intéressant, c'est d'avoir l'avis opposé, hein, c'est de se dire sur quel texte ils se basent, etc. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais ce qui est édifiant, c'est aller voir aussi les personnes qui parlaient en langue, qui exorcisaient, qui guérissaient. Et puis, vous allez voir, c'est des personnes, quand ils ne pratiquent plus, vous allez voir le regard qu'ils ont dessus. C'est assez édifiant parce qu'effectivement, on comprend mieux après. Voilà ce que dit Paul au verset 20, qui parle des langues, des prophéties, etc. Puis il dit, frère, ne soyez pas des enfants sous leur... si tu veux mettre en 21, second 21, s'il te plaît. Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez comme des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Ok. Donc si on tire ce verset-là, on se dit, tiens, ça c'est intéressant, et on va prêcher pendant trois quarts d'heure sur... Faut pas raisonner comme des enfants. Pour le mal, il faut être plutôt innocent, hein, plutôt pas chercher le mal comme des enfants qui voilà. Et ensuite, par rapport au raisonnement, à la compréhension, il faut être des adultes. Alors là, on peut faire trois quarts d'heure un message sans problème. Mais attention, il y a un contexte autour de tout ça. Sinon, on a l'impression que ce verset-là, il tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Regardez, versets 19 à 22. Regardez dans quelle partie il s'insère ce verset-là. Paul dit dans l'Église. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez comme des bébés pour le mal. Mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lettres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Quand on lit ces 4 versets, si on en sort juste pour le mal, soyez des bébés, etc., on est complètement hors contexte et pourtant on aurait pu faire 3 quarts d'heure ou 1 heure dessus. Mais il faut bien regarder l'environnement. Il leur dit, je préfère dire 5 paroles intelligentes pour vous édifier plutôt que 10 000 en langue qui servent à rien. Ensuite, il leur dit, pour le mal, soyez comme des bébés, mais pour tout ce qui concerne la réflexion et le raisonnement, soyez matures, parce que regardez, verset suivant, pourquoi soyez matures, il dit, c'est écrit dans la loi, c'est par les hommes d'une autre langue, il dit, pourquoi il y a dû parler en langue, c'est parce qu'il y a des juifs autour de vous, vous êtes vous aussi des juifs de naissance, quoi. Donc il dit, pour tout ce qui est de mal, ça soyez comme des bébés, mais par contre, parler en langue pour le raisonnement et tout, soyez comme des adultes, réfléchissez, c'est écrit dans la loi. Attention, se parler en langue, c'est pour vous, hein, c'est pour les peuples, etc., les lettres étrangères. Et verset suivant. Par conséquent, donc conséquence, hein, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Donc il leur ouvre bien les yeux en disant, attention, avec le parler en langue, vous êtes en train de faire fausse route, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Vous êtes en train de dire, encore une fois, c'est moi le plus beau qui parle le plus en langue. Vous parlez tous en langue, on ne comprend rien. Il y a des gens qui arrivent parmi vous et qui arrivent dans l'assemblée et qui se disent, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à tous parler dans un truc, je ne comprends rien du tout. Ce sont des fous ces gens-là. Vous allez voir, on va y venir hein, dans le chapitre 14 dans les prochaines semaines. Donc Paul, il leur dit bien une chose, il leur dit, attention, soyez pas des enfants en tout ce qui concerne la doctrine. Faites pas n'importe quoi les Éphésiens, là, vous étiez vraiment charnels. Hein. Ne vous focalisez pas sur le don des langues, c'est pas un signe pour vous. C'est un signe pour les non-croyants. Les langues sont un signe non pour vous les croyants, mais pour les non-croyants, perdez pas de temps avec ça. Vous, c'est la prophétie. C'est pas pour les non-croyants, la prophétie, c'est pour les croyants, c'est vous, c'est là-dessus qu'il faut vous baser. Et la prophétie, on a compris, il n'y a plus besoin aujourd'hui parce que tout est là. Et qu'il soit maudit, celui qui ajoutera autre chose. Tout est là. Si vous voulez de la prophétie, qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu? C'est là, les amis. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'homme sous l'impulsion du parler en langue. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, voilà. Et tout a été révélé aujourd'hui. Alors vous avez compris, pour nous aussi, comme un Corinthe à l'époque, Paul dit, ce dont vous avez besoin, c'est de la parole de Dieu. Et nous, ce dont on a besoin, c'est de la parole de Dieu également, tout simplement. Alors je vais finir par un aspect pratique. On ne parle plus en langue, il n'y a plus besoin de parler en langue. Encore une fois, je tiens à le redire, ceux qui parlent en langue aujourd'hui sont des frères. J'en suis convaincu qu'il y a d'excellents frères. Ils sont sauvés, ils ont bien reçu le salut, ils ont compris le salut en Jésus-Christ. Ils ont des prédications qui sont très édifiantes, qui peuvent être très bibliques. Non mais encore une fois, gloire à Dieu, c'est des vrais chrétiens. Mais Corinthe aussi, c'était des vrais chrétiens. Simplement, il y avait des points de doctrine qu'ils n'avaient pas compris. Et du coup, ils se perdaient dans les choses qui leur enlevaient la simplicité de l'évangile. C'est ce que dit Paul. Vous perdez la simplicité de l'évangile à Corinthe parce que vous rajoutez trop de choses autour, quoi. Ce dont vous avez besoin, c'est la parole de Dieu. Les parler en langue, c'est pour les non-croyants, c'est pas pour les croyants. Ça sert à rien de parler en langue dans vos églises. C'était un signe pour les non-croyants, pas pour vous. Donc aujourd'hui, on ne parle plus en langue, mais on continue de parler avec la langue. Hein. Continue. Hein. Alors je vais finir sur un petit aspect pratique. Quel usage, nous, chrétiens, on doit avoir de notre langue? qu'est-ce qu'on doit en faire de cette langue? Vous savez, la langue, c'est un tout petit organe. Hein. Vous connaissez ce passage? Mais alors, il peut faire beaucoup de dégâts, hein, on va le redire. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il peut faire comme dégâts? Premièrement, trois points, on va regarder. Quel usage on doit avoir de notre langue? Ben, premièrement, en avoir la maîtrise. La maîtrise. Regardez Jacques, chapitre 3, versets 1 et 2. Avec la langue, déjà, il faut la maîtriser. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Bon, alors ça, c'est une petite notion que je n'ai pas forcément développée, mais deuxièmement, il ne faut pas tout le monde cherche à prêcher la parole de Dieu. Hein. Ne cherchez pas. Hein. Et puis en plus, ceux qui vont la prêcher vont être jugés bien plus sévèrement. Donc attention à ceux qui prêchent, à ceux qui enseignent. Il faut vraiment mettre son cœur et bien le faire avec le Seigneur, avec son intelligence. Hein. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Donc, ne pas trébucher en parole. Attention, hein. La langue, des fois, on... Ouh, j'ai dit quelque chose qui a dépassé ma pensée. Je ne voulais pas lui dire ça. Et puis, je lui ai dit quand même. Alors, maintenant, la personne est blessée. Vas-y, maintenant, il faut rattraper le truc. Pas simple, quoi. Jacques 1, verset 26. On peut se dire, hein, moi, je suis très croyant. Hein, moi, je suis très croyant. Par contre, ma langue, bon... C'est plutôt elle qui me domine. Bah, si quelqu'un parmi vous, dit Jacques, croit être religieux, hein, vous êtes chrétien, hein, des bons chrétiens, hein, mais que vous ne tenez pas votre langue en bride, bah, vous trompez votre propre cœur, votre religion est sans valeur. Voilà. Moi, je connais ma Bible, hein, les amis. Hein. Demandez-moi Jean 3, 16, Matthieu 4, 28, Genèse 3, 25, tout ça, pas de souci, je connais pas bien ma Bible. Ma Bible, incollable. Par contre, dans ma vie, alors je suis cassant, je suis méchant avec les autres, je ne sais pas du tout, je dis du mal dans le dos, hein, quand le frère a le dos tourné, quand je rentre à la maison, vas-y. Hein. Il y a aussi ceux qui disent ce qu'ils pensent, mais qui ne pensent pas à ce qu'ils disent. Ils disent ce qu'ils pensent. Hein. Moi, je suis sincère, moi, je suis franc, hein. Je dis les choses, je dis ce que je pense. Mais est-ce qu'on pense à ce qu'on dit? Est-ce qu'on ne va pas blesser l'autre? Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Vous avez 4 heures. Vous rendez votre copie à la fin. Est-ce qu'il faut dire tout aux gens? Ça ne veut pas dire mentir. Ça veut dire simplement il y a des choses qu'on peut garder pour soi. Hein. On n'est pas obligé de tout dire. Hein. Si je dis, mon frère, j'aime pas du tout le jaune, j'aime pas ton pull. Je vais dire, Léo, ton pull, t'aurais pu mettre autre chose. Hein. Tu sais, moi, j'ai fait la cravate et tout, presque, ma chemise. Ça va servir à quoi? Rien du tout. Ça sert à rien. Puis ça va le blesser, Léo, en plus. En plus, c'est un très beau pull. En plus, c'est un très beau pull. Donc, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Non, il y a des choses, vous les gardez pour vous. C'est pas, on ne dit pas mentir. Je vais pas dire à Léo. Voilà, je vais pas. Alors, j'aime ton pull, Léo. C'est un exemple, hein. Un très joli pull. Je vais pas dire à Léo ton pull. J'aime vraiment. Je suis fan, quoi. Alors que j'aime pas du tout. Je dis pas de mentir. Je dis simplement, je dis rien. Voilà, c'est tout, quoi. Alors, c'est l'exemple d'un pull. Ça, bah, ça pourrait avoir des conséquences. Il y a des gens qui sont capables de. Hein, on peut avoir beaucoup d'histoires à cause de petits détails comme ça. Et ça pourrait dire une vacherie à quelqu'un, quelque chose qu'on pense sur quelqu'un. Dire t'es trop comme ci, contre comme ça. Mentez pas. Mais parfois, parce que les vérités sont pas bonnes à dire. Oui, je dis ce que je pense, mais est-ce que je pense à ce que je dis? Est-ce que je le fais avec mon intelligence? Paul a dit, il faut parler avec son intelligence, pas avec, forcément avec ce qui sort hein, dans son esprit. Hein. Sinon, on ne tient pas sa langue en bride, et qu'est-ce qui va se passer? Corinthe. Vous allez être des Corinthiens, les amis, dans vos vies, vous allez avoir pas mal de problèmes. Hein. C'est le signe d'une réelle maturité spirituelle hein, de tenir sa langue en bride. Hein. Ce n'est pas évident, hein, mais c'est le travail du Seigneur dans nos cœurs aussi. Hein. Autre chose, les grossièretés, les insultes, les gros mots. Regardez Éphésiens 5, 3 et 4. Est-ce que ça doit sortir de notre bouche si on est chrétien? Éphésiens 5, versets 3 et 4. On a l'impression d'être à Corinthe, mais on est à Éphèse, on pourra finalement mieux. Hein. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Donc ceux qui sont venus à Jésus-Christ sont des saints, c'est aussi valable pour nous. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Seigneur dit, est-ce que le chrétien doit encore dire des gros mots? Est-ce qu'il ne doit pas tenir sa langue? Regardez Colossiens, chapitre 3, versets 7 à 8. Si on est venu au Seigneur, si on est transformé, ça doit se voir aussi par nos paroles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ses péchés. Ah oui, quand on est avec des non-chrétiens, les gros mots, ce n'est pas un souci. Hein. Ça, à l'école, les enfants, dur pour vous. Au travail, ce n'est pas toujours mieux. Voilà, les gens, bon, ils n'ont pas de restrictions, hein, ils parlent avec, voilà, avec leur... parfois sans intelligence. Hein. Ça, c'était autrefois. Mais maintenant, renoncez à tout cela. À la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. En général, les chrétiens, on les remarque pour trois choses. Souvent, ils ont beaucoup d'amour. On dit que les chrétiens, en général, sont des personnes qui sont patients, qui écoutent les autres, etc. Normalement, ça se reflète. Hein. Premièrement, en général, on dit que les chrétiens, ils ont de l'amour pour les autres. Deuxièmement, ils ne font pas la même chose que les autres. Ils ne vont pas boire avec en discothèque, etc., faire la fête avec les autres. Et en général aussi, la troisième chose, c'est qu'ils ne disent pas de gros mots, souvent. Souvent, les gens sont un peu surpris en disant « dites pas de gros mots, hein. Ça les surprend un peu. Hein. » En général, ça vous arrive peut-être, vous êtes avec des gens qui en disent beaucoup, et au moment où vous arrivez, ils font attention, ils disent plus rien, voilà, ils font gaffe. Ah, c'est très important, c'est un signe de maturité aussi, la parole le dit. Hein. C'est inconvenant, disait tout à l'heure Paul, hein. C'est inconvenant, les grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Donc, maîtrisons encore, hein. C'est un vrai signe de maturité spirituelle. Et puis, on va lire ce passage, ce dernier avertissement que nous donne Jacques, dans Jacques 3, versets 3 à 10. Ce grand passage, justement, où il dit, la langue, c'est un tout petit organe. Mais alors, capable de faire beaucoup de dégâts. Jacques 3, versets 3 à 10. Et on va conclure avec ce passage. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, vous savez, c'est quand on leur met comme ça la sangle, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Hein, vous savez, si vous avez fait du cheval, vous comprenez bien, vous leur mettez une corde, vous tirez à droite, il va à droite, à gauche, il va de l'autre côté. Vous voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux. Ils sont conduits par un tout petit gouvernail, finalement, par rapport à un gros bateau. Le gouvernail, c'est tout petit. Hein. Là où le pilote le veut, hein, il suffit de bouger un tout petit peu, puis le bateau, il va faire ça ou ça. De même, la langue. C'est un petit membre. Elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Wow. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Mortel, ça tue, hein. On peut tuer quelqu'un, hein. Moralement, hein, peut-être. Si ce n'est pas physiquement. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Alors la langue, c'est un tout petit organe, c'est tout petit, hein, c'est, je sais pas, 7, 8, 10 centimètres peut-être. Mais alors, comme à Corinthe, ah, ça peut causer beaucoup de problèmes, la langue. Oh là là. Par la langue, on bénit le Père et on maudit les frères. La même chose. Mon père, puis qu'on rentre à la maison, on dit oh là là, oh la sœur aujourd'hui, oh le frère, oh le pull de Léo. Une plaisanterie, hein, mon frère. On bénit le père, on maudit les frères, et sans scrupule. On ne doit pas l'utiliser pour ça, hein, c'est ce qu'il dit, hein, on ne doit pas l'utiliser cette langue pour vanter ou maudire, au contraire, elle doit nous servir à bénir les autres. Et puis qu'est-ce qu'on doit en faire de cette langue? Servons-nous-en plutôt pour. Annoncer la parole de Dieu autour de nous. Hein. Il n'y a pas que le prédicateur le dimanche, hein, et l'étude biblique et les rencontres, etc. Dans votre vie de tous les jours, vous avez une langue. Ne vous en servez pas pour faire du charabia incompréhensible. Ça ne sert à rien. Vous avez bien compris. Vous en servez pour annoncer le salut en Jésus-Christ et la volonté de Dieu pour vos vies. Et pour la vie des autres, c'est ça le plus important. Alors, on va conclure, mes amis. Je vais juste récapituler rapidement ce que j'ai dit. Donc, premièrement, sur le don des langues, il y avait un contexte spécifique à l'église de Corinthe, hein, une église composée essentiellement de juifs, fondée sur des premiers convertis et des premiers membres à l'époque, entre guillemets, qui étaient juifs. Et le signe des langues était pour eux, donc c'était normal dans une ville où il y avait beaucoup de juifs et dans une église qui était composée de juifs essentiellement, qui s'invitaient certainement en plus autour d'eux. Donc, c'était normal qu'il y ait ce signe des langues et c'est normal, c'était pour eux. Deuxièmement, sur le don de prophétie, il y avait un contexte pour l'Église du 1er siècle, c'est qu'il n'y avait pas encore la révélation qui avait été rédigée dans une Bible, donc ils n'avaient pas d'enseignant, ben, ils recevaient les révélations de Dieu et l'enseignement par prophétie, c'était normal aussi, mais aujourd'hui tout est aboli parce que la Bible était rédigée en quasiment toutes les langues et aujourd'hui on a tout, tout est complet, le canon est complet, donc plus besoin de parler en langue parce que les gens ont la Bible dans leur langue à eux, et puis ensuite ils ont voilà, tout. L'annonce de la parole de Dieu se fait à travers l'Église, donc plus besoin sur le don de prophétie, on a la Bible, c'est suffisant. Et Paul le dit, entre les langues et l'enseignement de la parole, bah c'est l'enseignement de la parole qui prime, parce que c'est dans votre propre langue et ça va être avec votre intelligence. C'est ça qui va vous édifier, vous encourager, vous exhorter. Alors, quel usage on doit faire de notre langue, pour nous, un côté pratique? Il faut la contrôler. Il faut savoir la maîtriser. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà. Sans mentir, mais il y a des choses qui ne sont pas obligées. On peut blesser quelqu'un. Pas de grossièreté et d'insultes non plus. C'est inconvenant, dit la parole. On doit vraiment surveiller notre langage. Et on doit servir de cette langue pour bénir et non pas pour maudire. Voilà. Et ça, ça passera justement par l'annonce du salut en Jésus-Christ autour de nous. Prions. Seigneur, en effet, la Bible, Seigneur, est toujours pour nous. Et on voit à quel point elle est contemporaine, moderne, compréhensible, Seigneur. Et au 21e siècle, on va rentrer dans la décennie 2020, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu réserves, mais en tout cas, nous y entrons de plein pied et nous avons l'assurance que ta parole sera encore pour cette décennie-là, Seigneur. Et puis on a vu aussi que ta parole, parfois, Seigneur, certains pensent sont caduques pour nous aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur intérêt, vu qu'ils sont dans ta Bible, et nous comprenons mieux la révélation nouvelle grâce à l'ancienne. Seigneur, elle nous éclaire aussi sur cette nouvelle relation que tu as avec nous à travers Jésus-Christ. Le tabernacle représentait le Seigneur, le grand prêtre, etc. Ce sont aussi des images que tu as données pour que nous puissions comprendre ce que tu allais faire en Jésus-Christ. Seigneur, nous ne voulons pas faire des erreurs de doctrine, nous ne voulons pas sortir des textes hors contexte et se dire que certaines parties caduques seraient pour nous encore aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de ces dons, Seigneur. Ni la langue, ni les prophéties. C'est plus nécessaire, on a la Bible, tout est là. On prie, Seigneur, pour que tous les chrétiens puissent bien le comprendre, Seigneur, et que nous puissions tous utiliser nos langues à présent, non pas pour des paroles incompréhensibles, qui seraient finalement pour personne, mais des paroles compréhensibles et intelligentes qui viennent de toi, Seigneur, qui viennent de la Bible. Seigneur, aide-nous à garder notre langue aussi, à en être le maître, à ne pas avoir de paroles grossières, injurieuses, etc., maudire, mais bien au contraire, bénir les autres à travers le partage de ce que tu as fait pour nous et le partage de ton plan merveilleux pour chaque être humain. Nous t'en prions, Seigneur, aide-nous pour cela, donne-nous la force, donne-nous la sagesse et l'amour pour le faire, Seigneur, avec efficacité. Mais c'est toi, Seigneur, qui touchera par ton Saint-Esprit, nous le savons. Nous ne sommes que des instruments inutiles. Que tu sois béni par Jésus-Christ. Amen.
Amen.